C'est vendredi, on fait l'amour.
Tantôt peut-être. Pour le moment, c'est vendredi, on fait la semaine à chèvre avec Paul-Raphaël Charon.
C'est le retour du flâneur. Le retour du flâneur. Après un long détour.
J'aime ça que c'est la chronique de Paul-Raphaël. Jean, il dit, m'a mettre une toune sur le flâneur.
Ouais.
Je pensais
que c'était ton nouveau hit.
C'était pas si long détour que ça. Il a juste pas été là la semaine passée. Bon, ça va, Paul?
Ah, ça va bien. James m'a même dit quand je suis allé voir dans sa régie tantôt, il m'a dit hey, fait longtemps, je suis ennuyé. Il n'y a rien que manquer une. Là, ça va. Là.
Hey, tu veux parler de résistance au changement aujourd'hui?
Ah, mon gars, ça va être intéressant parce que je m'attaque à un phénomène duquel on est tous atteints, mais on veut pas l'admettre. Parce que on est tous, d'une manière ou d'une autre, réticents au changement. C'est juste, ça dépend c'est quoi le changement.
C'est sûr.
Ça dépend, ça nous touche dans quelle sphère de notre vie. C'est un gros changement.
Ça dépend si on l'a choisi ou non.
Ça dépend si on l'a choisi, c'est clair. Moi, je viens de déménager, j'ai choisi ce changement-là. Parfait, aucune réticence. Mais quand on t'impose un changement, des fois, oh, pas là, ça va être plus tough un peu. J'ai plein d'exemples pour vous autres, puis ça va nous permettre de calculer, autant vous, Jean-Simon, Karen, que les auditeurs qui nous écoutaient, votre niveau, on va dire, là, de réticence au changement.
OK.
Bon, d'abord, avant toute chose, soyez pas vexés, là, c'est pas une insulte, réticence au changement. Moi, je prétends qu'il y a certains changements pour lesquels c'est bon d'être réticent, puis d'autres pour lesquels c'est peut-être moins bon d'être réticent.
J'imagine.
On va passer à travers tout plein d'exemples, mais tu sais, c'est pas c'est pas une critique. On est vraiment tous comme... Ben non, c'est normal aussi. Ce qui est changé, là, donc la nouveauté, là, ça se peut qu'elle soit bien moins efficace, bien moins le fun, bien moins confortable que ce qu'on connaît déjà. Donc, naturellement, le fait que notre qualité de vie ou autre puisse être amoindrie de la quelconque des façons, on veut rien, on se dit, regarde, finalement, c'est bien comme
ça. Ah, mais la nouveauté
c'est
est
correct
nouvelle,
comme
par contre,
ça.
Hein, la nouveauté est donc différente de ce qu'il y avait avant. Fait, mais regarde, moi, je vais être un peu comme tu disais, on se l'avoue pas. Fait que moi, je suis un peu de ceux qui partent en disant, j'ai aucune réticence au changement, mais je vais peut-être être surpris avec tes affaires puis me surprendre à finalement être plus réticent que je pensais.
Ouais, puis est-ce que le changement apporte toujours. T'sais, apporte plus souvent du mieux ou plus souvent du pire. J'ai pas réponse à ça. Moi, je pense que le changement apporte les deux, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Il y a du plus de mieux, moi, que de pire.
Idéalement, si tu fais un changement, c'est pour améliorer les choses. C'est rare que tu veux te rempirer.
C'est sûr.
Ouais, mais à grande échelle, il y a des affaires qui arrivent. Tu sais, je vais te donner un exemple. OK, je vais commencer par celle-là.
Oui, donc.
Il y a un méga projet en ce moment de centrale de gestion de données à Saint-Étienne-de-Lauzon qui est en train de naître, OK? Le soleil a un peu, je veux pas dire débusqué cette histoire-là, mais ça se fait très, très discrètement. Pourtant, on parle d'investissement de près de, et peut-être même plus de, 2 milliards de dollars. Ici, à Saint-Étienne-de-Lauzon, là. Bâtisse gigantesque avec des murs puis des étages, des affaires et tout ça. Ça a pour but de gérer des données. Vite de même, là, c'est pas si évident que ça, comprendre à quoi ça sert, c'est quoi cette patente-là. Mais pour vous donner une idée de l'activité qu'il y a là-dedans, là, il y a tellement d'ordinateurs, puis de méga-ordinateurs, puis de ventilateurs, naturellement, pour refroidir ces ordinateurs-là, puis tout ça. Puis les ordinateurs génèrent de la chaleur. Ouais. Puis la chaleur que cette bâtisse-là, que ce projet-là va générer, risque de permettre de chauffer 11 millions de pieds carrés de serre. De serres agricoles.
Oh.
Donc, ils veulent, grâce à ce projet-là, créer en plus des serres parce que tellement qu'il y a des ordinateurs de patentes là-dedans, que ça surchauffe et ils disent mais la chaleur, il faut faire quelque chose avec cette chaleur-là.
Les ordis vont chauffer tomates.
Tu sais, c'est quelque chose de complètement débile. À quoi ça sert? On ne sait pas encore très précisément, mais les exemples qu'on nous a donnés puis les pistes qu'on nous a données, c'est ben, gérer des données. Donc, je sais pas moi, par exemple, permettre le transit de données qui peut faire fonctionner les voitures autonomes. Par exemple.
Okay. Okay.
Parce que tu sais, une voiture autonome, ça reçoit des données, ça envoie des données à une vitesse folle. Puis en plus, ça, l'intelligence artificielle est ainsi faite, je le résume là, le plus grossièrement que je peux, mais l'intelligence artificielle fait en sorte que les machines, entre guillemets, apprennent. Donc, au fur et à mesure qu'elle gère de la donnée comme ça, ben la façon de gérer les données va être différente en fonction de ce qui est arrivé. OK? On peut dire ça comme ça. Moi, ça, ce projet-là, là, tu sais, qui est tellement gros, qu'ils l'ont fait là, à Saint-Étienne-de-Lauzon, parce qu'ils sont proches d'une centrale hydroélectrique, en passant, là. Eux autres, ils ont besoin d'être proches de la centrale hydroélectrique. Ils veulent être pluggés direct sur le barrage. S'ils pouvaient, là, ils mettraient la prise dans le barrage. Moi, ça me terrorise. Ça, là, ça me terrorise,
mais
ce projet-là. Ça fait une couple de jours, là, c'est dans les journaux. Ça me fout la chienne. Pourtant, je ne vis pas à Saint-Étienne.
Mais pourquoi ça te terrorise?
Parce que je ne sais pas ce que ça va donner.
C'est l'inconnu.
Je ne sais pas ce que ça va... C'est un, ça me terrorise parce que c'est inévitable.
Ouais.
Deux, je ne sais pas ce que ça va donner. On dit, ah, ben, ça va créer des emplois. Par lesquels, combien, quel salaire. Ça me convainc pas. Puis, c'est un symbole extrêmement fort de changement dans nos vies qui vont être draconiens. Moi, la simple idée d'embarquer dans une auto qui va se conduire elle-même, puis que c'est donc une technologie, l'intelligence artificielle qui la contrôle, puis c'est pas moi, ça me fout la chienne, là, épouvantable.
Ah ouais.
Donc, ce projet-là qui représente, là, j'ai illustré avec ce projet-là, mais ça représente tous ces changements-là.
Changement technologique très important.
Voiture ouais. autonome, reconnaissance faciale, tu sais, le fameux 5G, dans le fond, là, le 5G, on n'a pas peur du 5G parce que ça tue des abeilles, là, ça, c'était farfelu. Mais cette idée que la technologie prend maintenant tellement de place dans nos vies qu'à un moment donné, on a-tu quasiment peur que ça prenne trop de place dans nos vies? Moi, ça, j'ai une grande réticence à ce changement. Ça me fout la chienne. Ben raide. Okay. Alors que d'autres vont dire, ben moi, j'accepte ça, pas de problème. La technologie, la vie avance.
Moi, ça m'emballe. Tu vois, c'est. Moi, ma réaction va être. J'aurai une réaction à ça. Je serai pas indifférent, mais moi, ça m'emballe de voir ça puis de me dire que nos routes vont peut-être complètement changer puis que, justement, peut-être que dans une génération, plus personne va avoir de permis de conduire en tant que tel, sauf pour faire du hors-route ou des affaires de même, puis le reste, ça va juste être des robots qui nous conduisent. Je trouve ça absolument emballant de me dire que notre vie va changer du tout au tout. Tu vois?
Ça me terrorise.
Mais c'est deux réactions qui. Je pense que ça dépend.
Parce qu'on n'a pas. Écoute, ouais. La fameux débat éthique, c'est voitures autonomes. Après ça, je vais vous donner un autre exemple. Mais le fameux débat éthique sur les voitures autonomes, c'est la voiture, face à une situation, entre guillemets, elle prend une décision. Ouais. C'est ouais. du code binaire, c'est des 0 puis des 1. Mais donc, la voiture, si par exemple, t'es dans l'auto dont tu conduis, machin, et que la voiture se retrouve devant un choix hypothétique où. Il y a un bébé puis une grand-mère dans le milieu de la rue, puis c'est inévitable que la voiture va foncer dans l'un des deux. Soit le bébé, soit la grand-mère. Qu'est-ce que la voiture choisit? Puisque la voiture choisit, c'est quelque chose qui aurait été programmé par un être humain.
Oui.
OK? Donc, il faut se poser ces questions-là. Mais à partir du moment où l'intelligence artificielle, entre guillemets, apprend, est-ce que ce qui a été programmé par l'être humain peut changer? Est-ce que la voiture peut déterminer que finalement, ce qui est mieux, c'est Y plutôt que X? Moi, cette question-là...
Là, les robots disaient Asimov, là.
Oui,
c'est rendu,
mais moi, je peux ne pas dormir la nuit en pensant à ces affaires-là. Okay, okay. Ah, je te dis, là, ça me fout la chienne épouvantable. Autre exemple de ça, c'est les fameux codes QR pour les vaccins. Moi, ce qui est en train de se passer, puis là encore là, attention, ceci n'est pas un plaidoyer anti-vaccin, pas du tout. Je suis vacciné, j'en suis fier, j'ai été heureux de me faire vacciner, mais... Ce qui est en train de se produire avec le fameux code QR, ouais. Puis le fait que dans des arénas aux États-Unis, par exemple, il va y avoir des spectateurs pour voir du sport, mais dans une certaine section, ce sera les gens vaccinés, donc sans distanciation, sans masque, et dans une autre section, ce sera les non-vaccinés avec distanciation, etc. Le fait, la simple idée de me présenter dans un aréna ou j'extrapole, dans un restaurant, dans un supermarché, à l'épicerie, sortir mon téléphone et montrer mon code QR... Ça me fout la chienne. Ça me terrorise.
Ça fait juste identifier une chose sur toi. C'est un peu comme quand tu te présentes à l'hôpital, tu présentes carte d'hôpital, il y a tes informations dessus, puis il y a même un code barre en arrière.
Ouais, mais c'est à l'hôpital. Dans le cas du code QR et du vaccin, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le fait qu'on veuille identifier les gens vaccinés, mais la suite que je connais pas. Donc, c'est pour ça que là, je vous dis, pour cet élément-là, moi, je suis très réticent au changement. Mmh. Je comprends à 100% le contexte de la crise sanitaire, mais... Je me dis, qu'est-ce qu'on gagne vraiment? Le précédent que ça peut créer, que je connais pas exactement, mais je peux quand même supposer qu'en temps de crise, on prend des décisions des fois qui causent des précédents pour la suite des choses. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est les impôts, Première Guerre mondiale, ouais. qui devaient être un effort de guerre puis qu'on paye encore aujourd'hui. Puis encore là, je dis pas, je suis pour ou contre le fait d'avoir fait ça pendant la Première Guerre.
C'est un fait. Ouais, ouais.
Mais ce précédent-là que ça pourrait créer, versus un gain qu'on estime à quoi gagner peut-être un mois ou deux sur nos libertés, mais alors qu'elles s'en viennent de toute façon parce qu'on se fait vacciner, moi, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, cette idée d'envoyer des codes QR aux gens que j'ai pas encore reçus, d'ailleurs, là, je pense que c'est à partir de
hier qu'on pouvait faire ça demande, je pense.
Ah, ils ont pas dit qu'ils enverraient un lien aux gens vaccinés.
Il me semble qu'il faut que ce soit une demande, mais gars, ça, c'est tout
dans tous les cas, l'image, donc, de dire on envoie un code QR, une technologie, machin, une image aux gens pour les identifier en fonction qu'ils sont vaccinés. Moi, ça, la crainte du précédent est trop grande, donc je suis extrêmement réticent à cette idée-là.
Je pense que ta question est bonne, puis le précédent que ça va créer dans ma tête, moi, c'est déjà clair parce que c'est déjà des choses qui se discutaient avant. Moi, je pense que la fameuse affaire dont les complotistes ont peur, la puce, tout ça, je pense que c'est inévitable, ça. Moi, d'après moi, de notre vivant, il y a des fortes chances qu'on ait une micro-puce qui va nous servir, par exemple, à payer, qui va nous servir à se faire identifier plus rapidement. Sauf que là où tous ces débats-là éthiques sont super importants. Il y a des gens qui vont se poser des questions. Moi, je vois une simplification des choses. Du moment où tu as moins d'affaires à traîner, tu as moins d'affaires, tout est à la même place, moi, je pense que ta vie va juste devenir plus simple. Mais c'est toute la question autour de la technologie ou pas, tu sais.
La sécurité des données aussi, Jean-Simon, là.
Ben oui, mais imagine la première fois que... Puis j'essaie toujours de nous ramener à... dans le passé. Okay. La première fois où est-ce qu'il y a un Ford Model T qui s'est mis à circuler dans les rues, là. Les gens sont habitués à être avec des chevaux. Les gens devaient capoter puis se dire, ces machines-là qui fonctionnent à l'essence vont tuer des dizaines de personnes.
Ben, certains ont même pensé que c'était une mode, hein, parce qu'on se dit, les chevaux ne seront jamais dépassés par la voiture comme
ben,
ça.
Il oui. Y a dû avoir des gens qui étaient terrorisés de ça, des gens terrorisés des avions, des gens terrorisés de toutes les avancées, de l'électricité à n'importe quoi. Je pense que le progrès technologique, il n'est pas arrêtable. On est tellement une espèce qui veut progresser.
Tu sais, quand on dit qu'il y a une certaine réticence au changement par rapport au changement technologique, là, ouais. Ça aussi, c'est un peu inquiétant, des fois, de voir des choses qui avancent, qui déboulent, mais que tu dis que t'as pas le choix de l'accepter parce que ça va arriver, là. T'as bien beau faire des manifs puis dire non, mais il y a certaines choses qui sont effectivement inévitables, tu sais. Souvent, la réticence au changement aussi, là, on en parle, on aborde ce concept-là pour dire « oui, moi, je le suis pas », mais il y a une part de ça qui est inconsciente aussi. Puis je vais vous donner un exemple, là. Ça m'a pris, c'est pas compliqué, ça m'a pris, quoi ça, cette époque-là, c'est entre 2008 et 2012 à peu près, je travaillais dans un magasin, donc ça fait au-dessus de 10 ans, là. Oui. Puis ça m'a pris au-dessus de 10 ans à le réaliser. Okay. J'ai réalisé cette semaine, OK? Je travaillais dans un magasin qui vend des bottes à cap, des chiennes de travail, des vêtements pour les infirmières, des vêtements aussi tout allés là, pour les hommes et les femmes, mais bon. Et dans ce magasin-là, comment le travail est réparti, c'est les filles aux caisses, puis les gars en arrière d'un bottes à cap dans le backstore. Pourquoi c'est comme ça? Fouille-moi, tu sais, dans le sens où c'était comme ça, mais personne s'en rendait vraiment compte. On savait que c'était les gars en arrière, les filles en avant, les filles aux caisses, ils plient du linge, les gars, ils défont des boîtes, puis ils vendent des bottes à cap.
Au McDo, c'était le même aussi. Et les gars dans la cuisine, les filles en avant.
Attends, pire que ça, ça m'a fait rire un peu, mais parce que ça date, là, mais la seule personne qui défiait cette règle-là, les filles aux caisses en avant, puis les gars aux bottes à cap en arrière, il y avait un gars, un seul, qui travaillait aux caisses en avant avec les filles. Pourquoi?
Je sais pas.
Il était gay.
Ouais.
Il était gay et extrêmement efféminé. Okay. Puis je l'explique comme ça, mais je te jure, à l'époque, ça fait juste 10 ans, ça fait pas longtemps, mais...
C'était comme automatique.
Tout le monde trouvait ça normal. Il y a jamais personne qui a fait « Hey, moi, ça m'écœure. » Il y a jamais une fille qui a dit « Moi, ça m'écœure. J'aimerais ça être en arrière avec vous autres, les gars. » Ou un gars qui a fait « comme moi, il me semble que je serais bien de la caisse. » C'était comme...
Mais c'était genré, puis c'était super genré dans le...
Mais on est-tu d'accord que... C'est bien plus normal de distribuer les tâches aux employés en fonction de leurs compétences.
Oui. Oui,
qu'en fonction
leur
de c'est une fille ou y es-tu gay, puis c'est un gars ou tu sais une fille qui aurait été lesbienne.
Parce qu'une barbe vend des bottes à cap. Alors ça, toi, puis t'en es une caisse.
Une fille qui aurait été lesbienne, y aurait-tu dit elle d'après moi elle est tough, on va l'envoyer dans le backstore.
Des chiens de travail.
Tu sais c'est absurde quand tu y penses, c'est absurde. Il y a encore plein de magasins dans lesquels ça marche de même. C'est pas pour mal faire, mais il y a comme une forme pour moi de réticence au changement dans la mesure où ça a toujours été comme ça, ça marche relativement bien, personne ne s'offusque trop de ça, donc pourquoi on le changerait?
Mais c'est l'acceptation de l'ordre établi.
C'est ça, mais pourquoi on changerait ça?
Pendant des décennies, des siècles, tu vas accepter cet ordre-là, tu sais, là tu parles d'ordre genré tout ça, puis qu'est-ce qui va le changer? Ben c'est une crise justement, là. C'est comme là, la pandémie fait en sorte qu'il y a bien des affaires où est-ce qu'on était super confortable, où là, tout à coup, oh, on remet tout en question. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à ça. Mais avant, là, il y a des affaires qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens, qu'on n'était pas prêt, qu'on n'avait pas de gants, pas de masque, tout ça, parce qu'on s'en foutait.
C'est vous autres que j'ai entendu parler, je pense, ça fait quelques semaines, là, mais vous discutiez sur qu'est-ce qui va rester après la pandémie.
Oui.
Donner deux becs à quelqu'un quand on le croise dans la rue, une poignée de main, souffler sur le gâteau, ces affaires-là. Bon, j'avoue que souffler sur le gâteau. Je pense que personne qui trouve que c'est le fun en date d'aujourd'hui, là, tout le monde
trouve
ça dégueulasse.
Mais tout le monde a réalisé à quel point
avant, on trouvait pas ça dégueulasse. Aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Mais je vais me forcer pour que les gens ils souffrent encore sur le gâteau à leur fête parce que je veux pas que la pandémie ait changé ça. Un autre exemple de réticence au changement. En date d'aujourd'hui, je m'imagine souffler sur un gâteau ou je m'imagine, mettons, à partir du moment où on aurait le droit de faire des rassemblements, quelqu'un souffle sur le gâteau, je me dirais, ben, faut le jeter. parce que cette idée, on a tellement fait attention dans la dernière année, les masques, les affaires dans le coude, on tous, que ça n'a aucun sens souffler sur un gâteau. Mais ça me dérangerait que ça change. Ça me dérangerait qu'on se donne plus deux becs puis qu'on se serre pas à main. Puis je veux pas que ça s'en aille, ce bout-là.
Et pourtant, la logique voudrait qu'on leur fasse plus, tu sais, puis qu'on reste plus à distance un peu, puis ça fait dans. Puis, tu sais, je comprends ta réticence par rapport à ça, mais je suis pas sûr que tu vois des usages comme donner deux becs vont revenir. Parce que c'est tout ce que ça a donné.
À qui?
C'est ça, exact. Et ça a amené comme réflexion, une autre réflexion. Je sais pas si c'est avec toi, Karen, qu'on en jasait sur les deux becs, là. Pourquoi un gars donne deux becs à une fille, puis deux filles se donnent deux becs, puis deux gars se serrent la même, tout ça, tu sais. Ça a fait réaliser en même temps, vu qu'on l'a tassé pour des normes sanitaires, que pourquoi on fait ça? Puis pourquoi une fille que tu connais pas, c'est que tout le temps, genre, mal à l'aise de savoir si ça donne deux becs ou donne une poignée de main, tout ça? C'est vrai pareil, là.
Tu ne la connais pas. Quand même que tu ferais un salut ou que tu ferais juste les serrer en main, je pense que ce serait correct.
En France, dépendamment des endroits, mais en France, les messieurs se donnent des becs.
Ça, c'est ma raison.
Plus les vieux que les jeunes, c'est moins. Tu sais, c'est moins vrai. Les jeunes, là, dans la vingtaine, là, ça se donne un peu moins des becs, là. Mais pourquoi ici, puis pas, tu sais, pourquoi là-bas, pas ici, pourquoi
Puis au Japon, ben personne ne se donne une poignée de main ou se donne des becs. C'est vrai. Fait que tu sais, mais la crise va avoir fait en sorte que certains phénomènes de société qu'on prenait pour acquis, c'est-à-dire que je croise Karen, même si je la connais pas, je donne deux becs, elle est peut-être un peu mal à l'aise avec ça. Tu sais, ben là, tout à coup, on a fait comme, hey, pourquoi on faisait ça?
Ouais.
Fait peut-être que ça reviendra pas, ça. Tu vois?
Est-ce qu'on a le temps pour un dernier exemple de réticence au changement?
Oui.
Ça peut aller rapidement, mais moi, c'est celui qui a le plus affecté, ben, en tout cas, j'allais dire le plus affecté ma vie. Je dors la nuit pareil, rassurez-vous, là.
Bien sûr, parce qu'avec ce que tu nous dis, je suis pas sûr que tu dors souvent, Paul.
Non, mais ça, c'est une des choses à laquelle je suis le plus réticent. Ça m'a fait réaliser à quel point j'étais un maudit vieux bougon, là. Mais, les caisses automatiques à l'épicerie. Et ça démontre à quel point c'est absurde la réticence au changement. Moi, les caisses automatiques à l'épicerie, je déteste ça. Je méprise. Que dis-je? J'exècre les caisses automatiques de l'épicerie. Ça me fâche. Je veux rien savoir de la caisse automatique à l'épicerie. Je veux que ça soit une vraie personne qui me dise « Bonjour, monsieur, voulez-vous des sacs? » Oui.
Allez-vous la carte Hermès?
Je veux qu'elle me demande combien de sacs avant que je sache combien de sacs j'ai de besoin. Là. Je le sais que c'est ça n'a aucun sens, ça, cet aspect-là, mais depuis qu'on paye les sacs, ils nous le demandent avant. Mais je veux ça. Je veux qu'il y ait un commis qui vienne emballer mon épicerie pendant que moi, je la passe. Je connais ça. C'est mes repères. Je veux mettre ma carte de crédit sur la machine quand la madame elle me dit le prix. Je veux souhaiter une bonne journée. Je veux parler à un humain. Mais, tu me verras jamais au comptoir à la banque, par exemple. Jamais. Je partirais une manifestation contre les caisses automatiques à l'épicerie parce que je me dis, mais ça, les pauvres madames à la caisse, ils perdent le job. Ils vont,
pourquoi c'est juste des madames?
Ou ils vont peut-être perdre le job. Non, ben, tu sais, puis je dis les madames.
Ben, tu vois.
Mais c'est souvent plus des madames.
Ouais, puis les gars sont dans les allées d'épicerie.
Les gars sont dans le backstore, puis ils défont des boîtes. Mais j'ai l'impression que ça leur fait perdre des jobs. J'ai l'impression que, oh mon Dieu, je vais être obligé de parler à un robot parce que machin. J'ai l'impression que c'est le diable en personne, la caisse automatique. Mais le guichet, lui, il me dérange pas. Hein?
Mais il y a drôle, peut-être.
Mais ils sont tous en train de disparaître, les guichets.
Tu sais, par rapport au. Ouais, c'est ça, par rapport au service bancaire, à l'épicerie, là, je capote sur la caisse automatique. Mais service bancaire, je suis déjà rendu une étape plus loin dans l'automatisation. Je suis chez nous, sur mon ordinateur.
Mais il y a peut-être une raison autre que tu t'avoues pas qui explique pourquoi tu t'en vas au guichet automatique, mais pas à la caisse automatique. Parce que les caisses automatiques à l'épicerie, c'est de la merde.
Ah, oh, c'est de la
cochonnerie. C'est de la maudite merde. Oh, c'est épouvantable. Je vois pas non plus. Si ça fonctionnait bien, j'irais, par exemple. Mais un guichet automatique, ça va bien pour retirer dangereux.
Moi, souvent, je ramasse des petits breuvages en plus, des petites bières de micro, des affaires. Puis là, évidemment, faut que tu demandes au commis que lui, il avait à peu près 11 ans, qui vient de mettre sa carte pendant que toi, gros barbu, t'attends. Ça n'a aucun sens.
COVID-19, hein?
J'avoue que sur l'efficacité, je te le donne.
Merci, Paul. On t'écoute dès demain matin dans l'excellente émission que Québec Soleil.
C'est vrai que c'est bon.
On va écouter ça. C'est prestigieux aussi.
Oui.
15h28.
Samedi et dimanche, dès 7h, Québec se lève dans la bonne humeur avec Paul-Raphaël Charon et ses nombreux collaborateurs. Infos, sport, culturel, showbiz, les anecdotes de Paul-Raphaël.
Très capable, même à 10h15, de faire un excellent ronflement.
Ah oui! Trop fun pour débuter vos journées du bon pied. Que Québec se lève, samedi et dimanche, 7h. Au 93.
D'ici le 29 mai, offrez-vous les trésors de la pêche d'ici dans votre assiette avec le menu Goûter le Québec maritime du 47.
Découvrez les plus beaux produits marins du Québec en 9 plats gastronomiques tels que le maquereau fumé des fumoirs Atkins, les pétoncles des îles de la Madeleine, la bisque de crustacés, le turbo au crabe de roche, la truite arc-en-ciel du fumoir grizzly et l'incontournable homard de la Gaspésie. La boîte gourmande Goûter le Québec maritime du 47, un véritable vent de fraîcheur. Menu et réservation sur le 47.com.
Alimentation, l'impact, c'est un endroit que vous devez absolument découvrir si vous n'y êtes jamais allé. Parce que c'est à Limoilou, ça se peut que vous soyez pas dans le secteur de Limoilou, puis vous êtes jamais allé chez Alimentation, l'impact. Manquez de quoi? Parce que chez Alimentation, l'impact, c'est le plus grand choix de bière de microbrasserie au Québec, point barre, OK? Il n'y a pas un seul magasin, pas un seul compétiteur d'Alimentation, l'impact qui arrive à cheville en termes de choix de bière de microbrasserie. Il y en a 800. Okay? Quand on a mesuré les frigidaires à bière puis les tablettes chez Alimentation L'Impact, parce qu'on l'a fait, c'est un kilomètre de bière qui vous attend chez Alimentation L'Impact. Et en plus de ça, ben, on se spécialise dans tout ce qui est québécois comme produit. Et je parle de là des vins québécois, des cidres québécois. Saison du homard, présentement, un bon blanc. Pourquoi ne pas y aller avec une option québécoise, boire local? C'est un peu notre credo chez Alimentation L'Impact et on accompagne ça avec différents produits du terroir, dont les excellentes viandes de la ferme Turlot. C'est votre marché local à Québec, Alimentation L'Impact. Et c'est où? C'est au 1600 4e Avenue.
Le marché Jean Talon de Charlebourg est tout ouvert. Faites comme des milliers de personnes et venez économiser au marché Jean Talon de Charlebourg. Venez nous voir seul ou en famille, car on trouve de tout, vraiment tout. Le marché Jean Talon de Charlebourg, autoroute 73 Nord, sortie Jean Talon.
Êtes-vous déjà allé à Hollywood? Si oui, vous avez pris une photo des étoiles sur le Hollywood Boulevard. Avouez-le! Et quand vous étiez au primaire, vous rappelez-vous comment vous aimiez ça recevoir une étoile dans votre cahier? Ben, chez Laurier Mazda, on est pareil comme vous autres. Quand on réalise que plus que 1000 personnes ont pris le temps d'écrire une critique dans Google, puis que la note qu'on reçoit, c'est 4,8 étoiles sur 5, ben, on est très content. Ce mois-ci, d'ailleurs, on vous offre la Mazda 3 voiture de l'année selon l'Association des journalistes automobiles du Canada pour 65$ par semaine. Le rêve! Laurier Mazda à Sainte-Foy, les étoiles, on connaît ça.
Ça cartonne!
93.
Ça y est, la pièce est prête pour accueillir le nouveau foyer. C'est le temps d'aller chez Norea Foyer Napère Signature. Venez vous en mettre plein la vue. Avec des foyers modernes, ultra-modernes ou classiques, un choix incroyable au granule, au gaz, électrique ou au bois. Et ils sont tous certifiés pour la nouvelle loi de la Ville de Québec. Et les conseils d'experts sont toujours inclus. Achetez maintenant et profitez de l'installation très rapide. Norea Foyer Napère à Sainte-Marie et Norea Foyer Napère Signature 791 Pierre-Bertrand.
C'est la foire du casque chez ADF Sport. Profitez de nos nombreux spéciaux et de l'expertise de nos conseillers pour acheter le plus sécuritaire et le plus beau des casques.
ADM Sport, tout ce que tu aimes.
ADM Sport, Québec et Saint-Hyacinthe.
Mom, je sais vraiment pas quoi faire aujourd'hui.
Sam, l'an passé, à pareille date, tu me disais la même chose.
Sauf que l'an passé, c'était pour que tu me passes ton auto.
Ben justement, pendant la vente étiquette rouge, j'ai le goût de changer pour une Corolla L 2021 en location 60 mois, zéro comptant, à $54 par semaine de chez Sainte-Foy Toyota. Que je ne te prêterai pas plus que l'an passé.
Ah ah ah, vraiment très drôle. Je vais aller promener le chien. Lui, au moins, il est original.
Ah, bonne idée. Moi, je vais aller me chercher une belle auto neuve. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi.
Vous êtes une femme ou un homme âgé entre 18 et 55 ans. Seniors Health est à la recherche de participants en bonne santé non-fumeurs pour une étude clinique à Montréal et Québec. Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Seniors Health. Recevez jusqu'à $5,520 pour votre participation. Inscrivez-vous à goseniors.com ou appelez au 1-866-262-7427. 1-866-262-7427.
Seniors Health. Pour un futur en santé.
Pour le patio ou la terrasse de vos rêves, demandez au maître. Les maîtres du patio. En mai, les maîtres écrasent la concurrence. Apportez votre soumission d'un compétiteur et ils vous enlèvent 5%. Les maîtres du patio, 88-686-3210.
Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face. Donnez-vous la main et changez de place.
Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle avec Jean-Simon, Lefèze et Karen. 93.
Avec l'été qui s'en vient, on a de plus en plus d'indications sur de quoi ça va avoir l'air, notamment pour les parents, les enfants, les camps, à quoi ça va ressembler. Ça a l'air qu'on va encore fonctionner avec les couleurs, puis ça se pourrait que... As-tu déjà été au camp, toi, Karine?
Oui, j'ai déjà été au camp comme campeur et également comme monitrice.
Oh, t'as été monitrice également.
Oui.
Et tes souvenirs du camp, j'imagine, c'est les chansons autour du feu, les jeux...
Oui, les lits à deux étages, le sleeping bag, bon. Prendre sa douche dans le lac une fois de temps en temps, ce genre de souvenirs-là. Là.
Ben là, cette année, il va falloir sûrement ajouter à tout ça certains accessoires, notamment les fameux masques au camp de vacances, de quoi donner le goût aux enfants de 7-8 ans d'aller d'aller au camp cette année. Joe, t'as les détails un peu de ce qui est présenté.
Voilà, c'est l'Association des camps du Québec qui a communiqué avec à peu près tous les directeurs de services de loisirs des différentes municipalités et qui a envoyé le protocole médical. Donc, ça s'appuie un peu sur qu'est-ce qui avait été fait l'été dernier, sauf qu'il y a certaines différences et je vous dirais que ce sont des différences qui sont pour le moins notables. Parce que sachez que les enfants pourraient être obligés de porter le couvre-visage. Pas le masque de procédure, mais le couvre-visage, selon l'âge qu'ils ont, mais également selon le palier d'alerte dans lequel se trouve la région où ils se trouvent.
OK. Donc, encore une fois, le rouge plus sévère jusqu'à jaune.
C'est verts. En plein ça. Okay. Donc, en zone orange ou rouge, les enfants devront porter le couvre-visage de façon obligatoire à l'intérieur en tout temps. Pour les élèves, pour les enfants, en fait, qui ont complété leur première année du primaire et plus.
OK, mais en zone jaune, là, les gens, actuellement, ils peuvent se recevoir à souper.
Ouais. Mais là, en zone jaune, ils vont devoir porter le masque, mais seulement pour les enfants de cinquième année du primaire et plus.
Okay.
Mais c'est pas logique, là. Tu peux recevoir chez vous, il y a quasiment plus de restrictions.
Non, en jaune, ouais, t'as raison.
Mais là, si tu vas au camp avec tes amis, il faut que tu mettes le masque.
Ouais.
Mais tu peux les inviter chez vous le soir, manger du popcorn, pas de problème.
En zone verte, il n'y en aura pas de couvre-visage. Okay. Donc, okay. Si jamais il y a certaines régions qui tombent en zone verte, il n'y en aura plus de couvre-visage. On va le retirer tout simplement. Autre chose à propos des enfants. On recommande que les enfants d'une même bulle restent à une distance d'un mètre.
Ah, les enfants sont bons là-dedans. Je pense que c'est une bonne décision parce que c'est très cadré avec la réalité des bambins qui ont souvent tendance à bien mesurer les distances entre eux, à pas se mettre la main dans la face puis à se picosser les cheveux. Je trouve que ça cadre quand même avec la réalité psychologique des enfants.
Et pour les moniteurs de camp, sachez que peu importe le palier où se trouve le camp, ils seront obligés de porter le masque, donc le masque de procédure en tout temps, intérieur comme extérieur.
C'est innocent, excuse-moi.
OK, fait que là, comment tu veux qu'un jeune de 15-16 ans ait du fun à être moniteur de camp avec un masque à journée longue, intérieur-extérieur, avec les mouches qui te tournent autour, il va faire 32 degrés, puis en plus, il faut que tu joues à la police pour dire...
Logan, lâche Charlotte.
Ben, c'est ça. Ouais. Reste à un mètre.
Ben, ils vont faire un peu comme font actuellement les éducatrices en garderie. Parce qu'en intérieur comme en extérieur, ils sont obligés de porter ça, là. Et là, si jamais il y a un moniteur qui pense qu'il est en contact avec un jeune qui a un cas potentiel de COVID-19, il devra porter la jaquette et les gants.
La jaquette? Je savais pas que la jaquette était... C'est-tu utilisé à quelque part, vraiment, la jaquette?
Dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux, oui, je sais. Mais là, des moniteurs de camp en jaquette, il y a toujours bien des limites. Là, jaquette et gants. Eh, hey, Seigneur.
C'est s'il y a un cas potentiel. Donc, on voit qu'on ne veut pas prendre de change.
Bon.
De chance. En fait, là, l'Association des camps du Québec, dans la communication qu'ils ont envoyée aujourd'hui au directeur des services de loisirs, indique qu'il y a des discussions qui continuent à se faire et que l'on souhaite assouplir ces mesures-là. Donc, discussion avec les partenaires. On comprendra que c'est avec la direction de la santé publique que l'on a ces discussions. Là. Donc, ça pourrait être encore sujet à changement, mais pour l'instant, c'est là-dessus qu'on s'enligne. Donc, plusieurs modifications, plusieurs changements par rapport à ce que l'on a connu l'été dernier.
Bon, tant qu'à être rendu là avec les masques, les jaquettes puis les gants, rendons les camps totalement à 100% thématiques COVID-19. Là. Tu sais, je me dis, tant qu'à ça.
Hey, on pourrait choisir un nom de camp. Est-ce que tu peux t'appeler Virus cette année?
Oui, c'est ça. Les moniteurs, ils ont des noms. Hein?
Oui, mm-hmm. Tu choisis un surnom au début de l'été, puis tu révèles juste à la fin ton vrai nom.
OK. Pourquoi? D'abord, j'ai jamais compris pourquoi exactement. C'est pour
mais
le
c'est
fun.
La magie du camp.
La magie du camp, oui. Donc, Virus, avec sa jaquette, ses gants qui courent après la petite Charlotte qui a peut-être été en contact avec Martin, qui à la COVID, après ça, qui pourrait avoir juste COVID.
Moi, je m'appellerais Pfizer.
Pfizer.
Vaccin.
Vaccin.
Ça a l'air que c'est celui qui est le plus apprécié du camp.
Oui.
Moderna.
Quoi d'autre? Purell.
Ouais.
Ça pourrait être thématique.
Astra et Zeneca, ils ont été retirés, eux autres. Les ouais, c'est... Ils ont juste fait une semaine, après ça, ils l'ont retiré.
C'est un camp thématique, finalement.
Ouais, un camp thématique, tu sais.
Oh my God, mais attends, tu me fais penser, moi, quand j'étais monitrice au camp, il y avait une autre monitrice qui avait un nom de maladie.
T'as quoi?
C'était Scarlatine.
Ah, OK.
Et moi, je voulais m'appeler comme un nom de maladie aussi, parce qu'elle s'appelait Scarlatine. Donc, on était dans le temps de la listériose. Et ça n'a pas passé vraiment au conseil.
C'est pas un nom très...
Ça a l'air qu'il y avait typhus et choléra.
Ben, sûrement qu'aujourd'hui, je pourrais m'appeler listériose et personne qui capoterait. Et j'ai fini par m'appeler Peanut, mais ce que j'ai pas compris, moi, à ce moment-là... C'est...
Comme la drogue?
Non. Non, mais j'ai pas pensé, moi, qu'aujourd'hui, la moitié des enfants sont allergiques aux peanuts. Quand je me présentais, ils me disaient, mais moi, je suis allergique à toi. Je me disais, non, hein, moi, je suis une peanut magique. Donc, c'est ça. En Campinotte, allant en Rabaska, là, ça se finissait pas très bien, mettons.
Non, je trouve juste ça plate un peu parce que ça, je pense que ça donne des indices quand même sur le déconfinement, ça. Le fait que dans les camps, il y a quand même beaucoup de sévérité quant aux normes, au port du masque pour les moniteurs, monitrices, tout ça. Ça nous met en relief le fait que ce sera pas si lousse que ça cet été. Là.
Non, puis regardez, pour les camps de vacances, là, pas les camps où on dort, les camps plutôt où on dort, pas les camps de jour, là, ouais. Il va y avoir des tests rapides obligatoires pour tous les participants au troisième jour après l'arrivée du camp, que ce soit bien les monsieur. Employés comme les enfants.
Mais ça, c'est correct.
Ben oui, c'est ça. Mmh. Mais ça fait partie des choses que l'on va connaître cet été, que l'on n'a pas nécessairement connu les derniers.
Écoute, pour 27226, quelqu'un qui dit, en vous écoutant, ma fille de 16 ans qui doit être monitrice dans un camp s'est mise à pleurer. Tu sais, c'est parce que...
Comment c'est ça? C'est parce que tu veux des jeunes qui vont être motivés. C'est tellement une belle expérience de travail d'être moniteur de camp. Tu crées des souvenirs. Tu crées des souvenirs à des enfants, mais tu t'en crées toi aussi avec la gang de moniteurs. Moi, quand j'étais monitrice, là, c'était pas nécessairement parce que je tripais sur les enfants nécessairement, mais j'avais tellement du fun à être dans le bois, à être avec d'autres gens qui tripaient comme moi. Puis la bière, le soir, était dans ta barouette, tu sais. Parce qu'on la méritait, on était brûlés. Mais... je garde des souvenirs impérissables.
À quel âge, la bière?
Ah, mais moi, j'étais plus vieille, là.
Ah, t'étais plus vieille, là. OK, t'as été majeure au camp?
Oui. Oui, il y avait une pénurie de main-d'œuvre.
Ah, oui.
Je travaillais là, juste les fins de semaine en radio. Fait que la semaine, j'avais le temps, là, d'aller.
Fait que t'avais 18-19 ans, ça s'appelait Pinot, puis tu buvais de la bière au camp de vacances.
Ben oui, mais quand les enfants étaient couchés, puis ben oui, c'était seulement qu'une bière, là.
C'est quoi les chansons de camp, là, qui pognaient dans le temps, là? Moi, j'ai jamais été au camp. Fait que je connais pas beaucoup ça, mais c'était quoi les chansons de camp? Y avait-tu des chansons qui.
Je me souviens pas de chansons de camp. De parce feu, que hein? Si moi, je chante, le feu s'éteint, là. les douches se brisent. C'est sûr, les maringouins s'en vont. Mais je me souviens des tunes de terrain de jeu, là, tu sais. La colonie de vacances, notamment, la ci, la ça.
Oui, en colonie de vacances, la ci.
Oui, c'est ça. Moi, ça s'arrête
au pagaie, au pagaie. Moi, j'étais guide de canot. Je peux-tu te dire que je recevais des groupes différents chaque jour dans des canots Rabaska et j'étais écœuré. Chante-moi plus cette chanson-là, je suis plus capable.
La colonie de vacances?
Non. Au pagaie, là.
Ça commence par quoi, ça?
Non, c'est correct, ça
va pagaie, beau. Au pagaie.
Hey, mais moi, j'ai fait des accidents de Rabaska. J'étais tellement mauvaise. J'essayais de dealer là, avec un autre moniteur. Toi, tu prends mon Rabaska, moi, je m'en vais en hébertisme. Comme ça, on va sauver la vie d'une quinzaine d'enfants. Là.
On propose comme nom de moniteur aussi faux positif. Voilà, amusez-vous avec des noms de moniteurs de camp de vacances COVID-19. Courte pause, on vous revient. On a une entrevue avec le nouveau chef de la police de Québec. Au retour.
Les jolies colonies de vacances. Merci, maman. Merci, papa.
Jusqu'à 30% moins cher pour votre panier d'épicerie. Boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromage et charcuterie. C'est ça le grossiste Le Frigo. Au Frigo, on mange local. On est en plein dans la saison du homard du Québec.
Profitez aussi de nombreux spéciaux de la semaine dans tous les départements, dont la succulente côte de bœuf fraîche catégorie Prime à seulement 16,99 $ la livre.
Informez-vous sur Facebook. Derrière le centre Vidéotron, à deux pas du Grand Marché, le grossiste Le Frigo, meilleur goût, meilleur coût.
Seul ou en famille, venez économiser au marché Jean Talon de Charlebourg. On trouve de tout, vraiment tout. Le marché Jean Talon de Charlebourg, autoroute 73 Nord, sortie Jean Talon.
BrandSource GGR 2.0 présente sa nouvelle image et devient le spécialiste du matelas sur la Rive-Sud. Chez nous, vous êtes servi par les propriétaires qui prennent le temps d'écouter vos besoins pour mieux vous conseiller. Venez découvrir notre nouveau département de matelas Mirabel, fabriqué au Québec. De plus, présentement, nous offrons 25% de rabais additionnel. Que vous cherchiez un lit articulé, un matelas gel latex ou ressort, nous avons le matelas qu'il vous faut. BrandSource GGR 2.0, c'est à Laurier Station, à 20 minutes des ponts.
Le printemps ouvre la voie à une foule de possibilités chez Volvo de Québec. Conçu en Suède et fait pour le Québec, tous les véhicules vous offrent l'incomparable expérience de conduite Volvo. Installez-vous maintenant au volant d'un véhicule à la technologie intuitive et au confort légendaire et profitez de tout ce que le printemps vous réserve. Offrez-vous le XC90 en location à partir de 1,9% et obtenez en plus un rabais de 1 500 $. Des conditions s'appliquent. Détails chez Volvo de Québec. volvodequebec.com.
Liquidasport peut maintenant vous accueillir. Venez découvrir notre nouvelle zone golf avec cage d'essai pour commandes sur mesure. Bâtons, sacs, chariots, balles, vêtements, tout pour le golf dans les grandes marques. Liquidasport, votre commerce local depuis 11 ans. 1285 Jules Verne, liquidasport.com.
Chez Hilo, on croit que la maison intelligente doit être accessible à tous. Que vous soyez techno ou pas.
Que vous ayez une grande maison ou pas.
Que vous soyez jeune ou pas.
Que vous le fassiez pour l'environnement, pour votre portefeuille, pour votre confort ou pas.
Parce qu'on gagne tous à réduire notre consommation d'énergie. Faites vos premiers pas vers la maison intelligente grâce à un ensemble d'appareils connectés Hilo. À partir de $199. Des conditions s'appliquent. Visitez iloenergie.com pour les détails.
93 jusqu'à 18h. Vous écoutez Bouchard en parle avec Jean-Simon, Lefez et Karen.
Il a été nommé il y a peu de temps pour succéder à M. Pigeon à la tête du service de police de la Ville de Québec. Je suis très heureux de lui parler cet après-midi. Denis Turcotte est le nouveau chef de la police de Québec. Bonjour, M. Turcotte.
Bonjour.
D'abord, peut-être une question que beaucoup de gens se posent. Un chef de police, c'est quoi son rôle exactement au sein, par rapport aux effectifs?
Par rapport aux effectifs, ben, c'est de s'assurer là, que les policiers, puis les policières, puis les membres civils de l'organisation ont tout ce qu'il faut pour travailler. Puis qu'ils ont un environnement de travail pour eux sécuritaire, mais dans le but de faire un travail de très haute qualité là, pour les citoyens de la ville.
Qu'est-ce que vous voyez comme défi potentiel par rapport à la réalité des policiers de la Ville de Québec présentement? Depuis votre entrée en fonction, j'imagine qu'on vous a fait part de différents ennuis, différents éléments qu'on souhaite améliorer. C'est quoi présentement la réalité des policiers de Québec?
Ben, ils ont vécu, puis on a vécu tout le monde ensemble, une réorganisation là, qui n'a pas énormément d'années de fait. Là. On est dans la deuxième année là, de cette mise en place de la réorganisation, donc il y a des choses à consolider encore. Là. Il y a il y a de l'apprivoisement. Les policiers, ils ont vécu beaucoup, beaucoup de changements là, dans les 18 derniers mois. Là. Donc, ça, c'est une de mes préoccupations, là, de tout aplanir là, ces petits irritants-là, là, dans le but là, qu'ils retrouvent là, une certaine sérénité au travail, là, puis que tous ces petits irritants-là disparaissent.
C'est pas évident non plus, mais M. Turcotte, souvent, on entend parler des cas que les policiers doivent traiter sur le terrain, souvent des cas de santé mentale. On attend pratiquement des policiers qui soient quasiment des travailleurs sociaux des fois. Comment on fait pour essayer d'inculquer ça à des policiers qui sont pas nécessairement formés à la base pour faire ce genre d'intervention-là?
Ben, il faut dire que dans la police moderne qu'on est, les policiers ont une certaine base quand même de formation dans ce domaine-là, mais c'est pas des psychologues en soi. Ouais. Mais par contre, ils développent une certaine habilité, agilité à travailler dans cet environnement-là. Mais vous parlez de ce problème de santé mentale, ça se fait pas tout seul par la police, là, de régler cette problématique-là dans une ville comme la nôtre. C'est un travail d'équipe. Puis nous, ici à Québec, on a une belle équipe là avec les partenaires là, du réseau communautaire. Donc, c'est une force pour nous. Est-ce qu'on va la bonifier? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Probablement. Puis c'est une chose à laquelle je vais m'attarder là, assurément là, dans les prochaines semaines.
Oui, parce que l'image des policiers en 2021, il y a beaucoup de choses qui brassent. Hein. On peut penser à tout ce qui est mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Je sais que c'est pas la même chose au Québec en tant que tel, mais on dirait quand on regarde, on prend le pouls des gens sur les médias sociaux, tout ça, que le policier en 2021 est pas vu comme une figure positive. Comment on fait pour changer cette image-là?
Ben, je vous dirais que si c'est quelque chose que les policiers, ça se parle, là, que toujours critiquer là, sur la place publique, toujours scruter à la loupe les interventions que les policiers font, ouais. C'est sûr qu'à la longue, ça peut devenir une petite usure, là. Mais je pense qu'ici à Québec, la population est extrêmement bien desservie là, par le service de police. Puis tu sais, les citoyens doivent continuer à avoir une très grande confiance en leur service de police et en leurs policiers parce que sont vraiment motivés, malgré le fait de tous les changements qu'ils ont vécu dans les dernières années. Oui, il y a des irritants, je l'entends, mais au-delà de tout ça, là, sont vraiment dédiés là, à servir la population.
À ce sujet-là, il y a eu une série très intéressante qui a été diffusée à Télé-Québec cet hiver, à la fin de l'hiver, début du printemps, là, sur le travail des policiers à Québec comme tel. Est-ce que vous avez senti que le regard de la population envers le travail des policiers a changé à la suite de la diffusion de cette série-là?
Ben moi, je m'en ai fait parler, là, quand même sur une base régulière quotidienne. Puis les policiers aussi nous rapportent qu'ils se font aborder par les citoyens là, sur le fait que la série est bien faite. Puis effectivement, ça nous fait mieux connaître. C'est assurément là, que ça a été positif pour l'organisation.
En termes de perception aussi, je pense que c'est important qu'un service de police soit à l'image de sa population. Là. On sait que c'est un enjeu, la diversité au sein d'un corps policier. On en parle notamment au sein du SPVM. À Québec, je pense qu'on avait sorti des chiffres ici au 93, comme quoi il y avait jamais, ou il n'y en avait pas présentement, en tout cas dans les effectifs de policiers de race noire. présentement au sein du SPVQ? C'est-tu dans vos préoccupations, ça, la diversité au sein du recrutement?
Oui, assurément. Puis je m'inscris très activement dans le programme que M. Labeaume là, a déjà annoncé puis qui s'en vient aussi dans les prochains jours. Là, il va y avoir des annonces de fait. Mais oui, c'est quelque chose qui me préoccupe, là, qu'on soit représentatif de la population qu'on dessert. Là. Oui, assurément.
C'est quoi les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour attirer des gens des minorités, par exemple, minorités visibles au sein du SPVQ?
Ben moi, je pense que depuis plusieurs années, on est déjà très près des communautés. Hein. On a un agent de liaison, un officier là, avec les communautés, là, et qui est très connu, très impliqué. Puis on a plusieurs aussi policiers qui sont impliqués dans ça. Puis il y a plein de choses qui se font dans l'organisation par rapport aux minorités. Mais sauf que, je vais mettre un genou à terre, on va le dire. Peut-être bien qu'on communique un petit peu mal sur toutes les actions qu'on pose au cours de l'année.
Okay.
Et pour le futur, si je regarde en avant, ben on va se faire comprendre par cette population-là, puis on va essayer de les comprendre, eux autres, ce qu'ils vivent. Fait que comme ça, quelqu'un qui pense que c'est inaccessible de rentrer au service de police de la Ville de Québec pour un individu, là, on prend un exemple particulier, mettons quelqu'un de race noire, ben
ouais.
C'est complètement faux, là. C'est très, très, très accessible, mais sauf qu'il faut que la personne connaisse c'est quoi le travail d'un policier. Donc, oui, il va y avoir des choses de fait, mais ça va être annoncé dans le plan là avec M. le maire dans les prochains jours. Vous pouvez patienter encore un petit peu à ce sujet-là.
Mais d'où ça vient, cette perception-là? Parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites sur la communication, puis je vois que vous avez même des bonnes intentions par rapport à ça. Mais d'où ça vient peut-être cette perception-là erronée, selon vous?
Ben c'est parce que les services de police mondiale là, c'est pas, ils ont pas toutes la même interaction avec leur population. La police dans d'autres pays que je nommerai pas là, mais le lien avec leur population est différent de qu'est-ce qu'on peut vivre ici au Québec. Nous, un service de police comme le nôtre là, on est là vraiment pour aider les gens, les soutenir. On est le dernier rempart au niveau de la sécurité des citoyens, puis c'est ça qui nous préoccupe. On n'est pas dans le comment je dirais bien ça, le lien avec la population, ce qu'on désire, c'est d'être près d'eux, d'être à l'écoute de leurs besoins. En tout cas, c'est ce qui me préoccupe, moi. Fait que ça fait en sorte que si le citoyen qui arrive, qui est un immigrant ou qui est issu d'une minorité, qui se dit, moi, dans mon pays, ma famille, c'est impossible d'accéder au travail policier, mais ici, on va le faire comprendre que c'est très possible.
Je comprends. On a abordé un peu tout à l'heure pendant l'entrevue, Monsieur Turcotte, le fait que les policiers sont scrutés à la loupe, là, les citoyens qui filment avec leur cellulaire, des pages comme les spotted policiers zélés de ce monde, qui chiolent après l'étiquette avec ci, avec ça. Est-ce que le meilleur moyen de faire contrepoids à ça, ce serait pas d'avoir en tout temps sur les policiers des bodycams, des caméras qui filment pour avoir toujours le point de vue du policier et pas celui seulement du citoyen? Je pense que ça peut être important qu'un citoyen puisse filmer l'action du policier, mais pourquoi c'est pas déjà universalisé sur l'utilisation des caméras policières?
Ben, je sais pas si vous le saviez, là, mais le SPVQ fait partie d'un comité provincial là, justement sur l'analyse de la possibilité de munir les policiers au Québec de caméras portatives. Donc, on a participé activement. Je dis « on », mais c'est moi là qui a participé à ces comités, à ces divers comités-là. Puis, présentement, la Sûreté du Québec, dans 4 MRC différentes dans la province, sont à faire un projet pilote. On s'est entendu d'un commun accord, tous les partenaires, que c'était la Sûreté du Québec qui allait faire le projet pilote, afin d'analyser toutes ces possibilités-là d'implanter des caméras portatives dans les outils de la police au Québec.
D'accord. Monsieur Turcotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi et bonne chance dans vos nouvelles fonctions.
Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Au revoir. Denis Turcotte, c'est le nouveau chef du SPVQ, donc du service de police de la Ville de Québec, qui nous parlait des différents enjeux. Je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour redorer le blason du policier en général. Je parle pas du service de police de la Ville de Québec qui a une bonne réputation
absolument.
En tant que tel. Mais moi, je parle vraiment en général de la manière dont on voit les policiers. Et tu le vois sur les médias sociaux, tu le vois dans les manifestations. Le policier est vu, à tort ou à raison, dans certains cas, évidemment, il y a eu des drames épouvantables aux États-Unis, des actes regrettables, tout ça, comme un outil de répression. Tu sais, l'espèce de bras armé de l'État qui vient fesser. Or, c'est pas ça. Dans 90% des cas, mais c'est une image qui est persistante. Je sais pas si je l'exprime bien un peu, Karen, là, mais en tout cas, c'est ce que moi, j'observe notamment quand je lis les médias sociaux, puis quand je parle à des gens aussi.
Et je pense que ce n'est pas justement la réalité, ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, parce que quand tu as une bonne expérience avec un policier, parce qu'il t'est venu en aide dans une situation X, ben, tu n'iras pas nécessairement l'écrire sur Facebook bon ou point. Le décrier. Donc, tu vas le faire quand tu vas avoir eu un ticket injustement, quand tu vas penser qu'il y a un abus de pouvoir ou qu'il y a du zèle, par exemple. Mais lorsque la situation s'est bien réglée, que tu as senti qu'ils ont vraiment fait leur travail, qu'ils t'ont épaulé là-dedans, que sans eux, tu sais pas comment tu y serais arrivé, ben tu le cries pas sur les toits.
T'as raison.
Alors qu'à Québec, moi, je fais juste penser aux deux événements qu'on a eu dans les dernières années qui ont shaké la ville de Québec. Et les policiers étaient présents. Et je me demande comment ces gens-là, tu sais, le lendemain, il faut que tu retournes travailler, puis peut-être que les séquelles ne seront pas immédiates. Peut-être que sur une autre intervention, tu vas entendre un bruit que tu avais entendu le soir de l'Halloween, puis là, ça va repopper. Donc, il faut être à l'écoute de ces gens-là. Ma cousine est policière à la ville de Québec, et elle me racontait qu'une fois par année, elle a peur. Elle a la chienne de ne pas retourner chez eux.
Ah oui.
Une fois par année. Elle dit habituellement, c'est... mais en général, elle est en sécurité, même si ce sont deux filles qui patrouillent, elle est bien outillée, elle sait ce qu'elle a à faire et tout. Mais quand même, ils vivent un risque que nous, on ne vit pas au quotidien. Tu as un appel, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber.
Exact.
Et quand on appelle au 911 pour avoir besoin de la police, tu es rarement dans un état calme et normal. C'est rarement quand tu écoutes District 31 c'est pour avoir une information. Là.
Quand la police fait appeler, c'est... En partant, c'est pas parce que ça va bien.
Exactement. C'est jamais des bonnes nouvelles. Alors, puis souvent, tu retraces jamais ce policier-là. Tu peux pas lui dire merci. Merci pour votre bon travail. C'est rare que tu vas le recroiser. Ouais.
Je parlais de la série, ça s'appelle Police en service à Télé-Québec.
C'est tellement bon. Hein?
Vous pouvez aller la voir sur le site de Télé-Québec.
Okay.
C'est disponible. C'est ça, je suis en train de le vérifier. Là. Puis c'est disponible. Puis écoute, moi, j'ai regardé ça, puis Paul Raphaël aussi l'a regardé assidûment.
C'est un rendez-vous chez nous.
On apprend des choses sur le travail de la police, puis sur l'approche que les policiers ont avec le public. C'est pas tellement répressif à Québec. Là. Évidemment, il y a des situations où ils n'ont pas le choix, c'est clair. Quand ils font affaire avec des bandits, là, oui, ils n'ont pas le choix.
Puis des fois, il faut qu'ils appellent le GTI.
Oui. Mais honnêtement, ça a changé beaucoup mon regard sur le travail des policiers. Honnêtement.
Et aussi la collaboration avec les différents organismes de Québec. Je pense à Pêche, je pense à L'Aube-Rivière. Donc, quand ils voient quelqu'un qui est désorganisé, souvent, ce sont des clients. Ils connaissent leur nom, ils connaissent les habitudes, etc. Donc, ils savent que ces gens-là n'ont pas avantage, on n'a pas avantage à les judiciariser. C'est pas de ça dont ils ont besoin. Donc, exact. Oui, les policiers de Québec ont une partie slash quasiment travailleurs sociaux, du moins. Puis je pense qu'ils ont des formations même à ce niveau-là, parce que c'est la réalité de Québec. Mais je pense qu'à Québec, on a un bon corps policier, au Québec également, parce que contrairement à d'autres endroits dans le monde, ici, il y a une formation et ça prend un cégep.
Absolument.
Donc, en partant, ça prend une certaine éducation. Après ça, tu t'en vas à Nicolet. Et souvent, c'est pas tout de suite. Donc, tu as eu le temps aussi de maturer un petit peu. Là.
Et tu as des endroits, tu me fais penser aux endroits dans le monde, là, mais mettons, du côté du sud des États-Unis, dans certains États, on parlait à Alain Gély un bout de temps au 93 dans l'émission, quand on était le matin. Puis lui, il est allé du côté de l'Arkansas, puis il donnait des formations, puis il dit, là-bas, les policiers, là, ils gagnent des peanuts. Là, c'est des salaires de misère, des salaires de crève-faim. Dans certains pays, parfois, être policier, là, tu t'en vas chercher des travailleurs dans les champs, tu dis, hey, veux-tu devenir policier? Nanana, c'est fait de façon boboche, sans formation. T'as tout à fait raison de souligner la formation des policiers ici au Québec. Les normes sont sévères. Dominique dit également quelque chose qui, je pense, pourrait faire un bon mot de la fin. On ne remercie pas les policiers pour les crimes non commis. Or, c'est leur boulot principal, la prévention. Et pour ça, je pense qu'on leur doit un bon coup de chapeau. Courte pause, on vous revient. Au retour, on va retourner avec quelque chose qu'on a essayé il y a quelques semaines. Vous aviez bien aimé ça. C'est musical et c'est un peu amusant également parce qu'on s'amuse avec des textes de chansons. On essaie de les faire deviner, mais sans la musique en arrière. Fait qu'on fait tout ça au retour de la pause.
PC en vrac rouvre ses portes avec des promotions monstres. Tout l'inventaire est en liquidation. Jusqu'à 40% de rabais. Du 10 au 29 mai seulement. À Sainte-Foy, Saint-Nicolas et Charlebourg. PC en vrac, c'est votre équipement à prix imbattable.
Salut! Salut les peureux. Vous le savez, je suis fier porte-parole de l'expert carrossier Rive-Sud. Quand je vous dis qu'en cas de malheur, faites affaire avec le meilleur, ben c'est pas des blagues. Parlez-en à Maxime Bastien de Lévis qui a exigé l'expert carrossier Rive-Sud.
Je suis vraiment impressionné par la qualité du service et des travaux qui sont impeccables. De plus, des petites attentions telles que lavage intérieur et extérieur de mon véhicule démontrent le désir de se démarquer. Si seulement je n'avais pas à bosser mon auto pour faire affaire avec vous.
L'expert carrossier Rive-Sud, ben c'est ça qui est ça.
Ça arrivera pas souvent que je peux vous parler de piscine et spa Le Binière et vous dire que, à matin, moi, j'ai acheté une piscine. Je suis allée les voir au 989 Pierre-Bertrand. Si vous voulez une piscine hors terre ou creusée pour la Saint-Jean-Baptiste, c'est possible. C'est tellement possible que la mienne, elle va être livrée dans la semaine du 20 juin. Donc, vous comprenez qu'on va l'avoir avant la Saint-Jean. Si moi, je suis capable de l'avoir, vous aussi, je n'ai eu absolument aucun privilège. Et en ce moment, c'est ça. C'est d'acheter une piscine, oui, mais si t'es pour l'avoir au mois de septembre, là, c'est pas là que tu vas en profiter. C'est maintenant qu'on la veut. Moi, j'avais le goût d'être autonome, de pas avoir à demander à des amis, « Ouais, je peux-tu aller me baigner chez vous? On est-tu dans les règles, etc.? » Non, la liberté, on va passer du temps dans notre cour, sur nos patios, faire du barbecue, hein? Un petit splash dans la piscine, tu ressors, tu te fais bronzer. Tabarouette, pour la première fois, j'ai vraiment hâte à mes vacances. Ça fait plus de 15 ans que Piscine et Spa Le Binière a son adresse et sur la Rive-Sud et maintenant a son adresse à Québec. Allez en magasin, allez voir la gang, entreprise familiale, ils vont vous conseiller. Moi, on m'a pas essayé de me vendre aujourd'hui des choses dont j'avais pas besoin. On m'a dit, Karen, c'est ça que t'as besoin, ben c'est ça qu'on va te vendre. Point final. Vous allez profiter du confort de votre piscine. Avant l'été, vous cherchez une piscine, un spa, thermopompe, des produits d'entretien ou encore des pièces. Eh bien, Piscine et Spa Le Binière, maître piscinier, une entreprise familiale, toujours à Saint-Apô, mais également à Québec. Allez les voir, vous serez pas déçus au 989 Pierre-Bertrand.
Êtes-vous déjà allé à Hollywood? Ben si oui, vous avez pris une photo des étoiles sur le Hollywood Boulevard. Avouez-le! Et quand vous étiez au primaire, vous rappelez-vous comment vous aimiez ça recevoir une étoile dans votre cahier? Ben, chez Laurier Mazda, on est pareil comme vous autres. Quand on réalise que plus que 1000 personnes ont pris le temps d'écrire une critique dans Google, puis que la note qu'on reçoit, c'est 4,8 étoiles sur 5, ben, on est très content. Ce mois-ci, on vous offre la Mazda CX-3, l'auto parfaite, pour 69 $ par semaine. Le rêve. Laurier Mazda à Sainte-Foy, les étoiles, ben, on connaît ça.
Ça cartonne!
Moi, je t'année, là. Je marche plus, je danse plus, je bouge plus.
Ah, ha! Les orthésistes du pied de Québec vous invitent à marcher régulièrement. Ça fait tellement du bien. Pour vos douleurs aux pieds, aux genoux, aux hanches, leur équipe va vous remettre en mouvement. C'est propre et sécuritaire. N'hésitez pas. Prenez un rendez-vous aujourd'hui au piedquebec.com. Leurs services sont couverts par la majorité des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande, piedquebec.com.
93.
Enfin, le menu homard de Normandin est de retour. Goûtez au classique lobster roll, au généreux club sandwich ou la savoureuse pizza homard avec sa délicieuse sauce crevette, roquette et un soupçon de citron. Des plats faits avec amour et avec des produits d'ici. Vous retrouverez de la saveur de la première à la dernière bouchée. Et cette année, on ajoute 2 pokéballs au menu, au homard, mais également au poulet général Tao. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Disponible sur livraison et pour emporter, détails sur restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait du bien.
La bonne nouvelle Châtel, une présentation de Mazda Châtel. Nous sommes ouverts et prêts à vous accueillir tous les jours et tous les soirs en semaine. Roulez vers l'été avec le Mazda CX-5 2021 à traction intégrale pour aussi peu que 85 $ par semaine, location 48 mois avec les giracomptes. Grande disponibilité d'inventaire sur tous les modèles de toutes les couleurs et disponible pour livraison immédiate. Mazda Châtel, au centre de la capitale. Sortie Pierre-Bertrand, secteur du Marais.
Vous êtes entrepreneur spécialisé? Le vrai spécialiste en outillage à Québec, c'est le groupe LD. Et depuis plus de 45 ans, le 21 mai, c'est la grande vente d'ouverture de la nouvelle salle de Mont. Venez rencontrer l'équipe des outils Makita qui vont vous offrir des super cadeaux avec tranche d'achat et la possibilité d'essayer des outils. Chez Groupe LD, trouvez tous les nouveaux produits et accessoires Makita. La grande vente d'ouverture, le 21 mai, chez le vrai spécialiste en outillage, Groupe LD, rue Saint-Jean-Baptiste, coin Amel et Henri IV.
J'ai hâte de reprendre contact, de redécouvrir mon monde.
Avec Apple CarPlay, inclus avec le tout nouveau Nissan Rogue.
Oui, je veux redécouvrir l'espace.
Grâce au vaste espace de chargement du Rogue.
Redécouvrir la nature, le calme.
Avec l'habitacle le plus silencieux de sa catégorie, celui du Rogue.
Exactement.
Redécouvrez le tout nouveau Nissan Rogue S à traction avant, en location pour l'équivalent de 79$ par semaine pour 39 mois.
Jusqu'au 31 950$ en compte initial sur approbation de crédit, 343$ par mois, valeur au détail de 30 773$, détail chez Nissan.
Il voulait tout avoir.
La maison, le chalet, les meubles.
Il faut trouver une solution.
Pour moi, c'était hors de question.
Ça fait quand même 10 ans qu'on vit ensemble.
Qui va garder le chien?
On fait quoi rendu là?
Pas facile de démêler les choses quand on est en procédure de séparation. Un médiateur, ça sert à ça. Nous aider à trouver des solutions. Et faire en sorte de se séparer nos biens tout en continuant de se respecter.
La médiation, ça démêle bien des conflits. Visitez le québec.ca/médiation. Un message du gouvernement du Québec.
Le 5 heures, du bon le matin, Trudeau Landry, Bouchard en parle. Que Québec se lève, les gros numéro 1. Pour connaître la suite, branchez-vous au 93. De nouveaux épisodes, tous les jours.